Les obstacles à l'amour de Dieu, découvrir en soi sa vraie identité d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. En fait, les psychologues devraient être comme Jean-Baptiste, ils préparent les chemins du Seigneur. Et Jean-Baptiste disait de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il y a tout un travail sur nous pour faire bien la différence entre l'enfant de nos parents, de notre hérédité, encore une fois qu'il soit remercié, c'est si difficile d'être parent, et l'enfant de Dieu qui nous habite. Et les deux voies sont différentes. Une religieuse qui était ici et qui m'avait vu dans, une fois où j'étais venu dans un groupe de prière à Bruxelles, me disait qu'elle avait été guérie au cours de la session de la voix de son père, qui lui faisait peur. Et je redis ce que j'ai dit hier, c'est pour savoir exactement où j'en suis dans mes poupées russes, et je vais revenir là-dessus. Je vous rappelle que nous sommes faits de plusieurs niveaux de profondeur. Je ne vais pas amener ce que j'amène d'habitude, une matriotchka. Quand on l'ouvre, il y en a une autre, etc. Jusqu'à la petite poupée centrale. L'extérieur, c'est le paraître, la façade, l'image que je veux donner, et qui a une certaine nécessité sociale. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus dans l'image que d'autres. Toutes les poupées intermédiaires, c'est là où devraient travailler les psychologues. Mais la petite poupée centrale, c'est ce que je suis vraiment. Là où Dieu m'habite. Au cours de ce week-end, au Champ d'Oiseaux, à Oualué, il y a une religieuse qui m'a fait dire, est-ce que vous avez parlé du tabernacle de Dieu à l'intérieur de chacun ? Est-ce que nous avons vraiment conscience qu'en profondeur, il y a un tabernacle que Dieu habite et qui demanderait beaucoup de respect pour ce que nous découvrons de nous-mêmes. Vous vous dites parfois ça ? Il y a comme une église intérieure, un tabernacle. René Luc disait à très juste titre que c'est important d'avoir chez soi un endroit qui parle de Dieu et de son amour. Puisque de toute façon, il y a des tas de choses chez nous. Mais quelque chose qui me parle sans cesse de l'amour de Dieu et de sa présence à l'intérieur de moi-même. Alors, le premier mot qui m'était venu après la séance d'hier, c'est ça. Est-ce que j'ai conscience qu'à l'intérieur de moi, je suis porteur, Christophe, c'est porteur de Dieu. Qu'il y a un endroit que Dieu habite et qu'il habite d'une façon particulière. Puisque chacun de nous est différent, original. Alors, avant de revenir là-dessus, je voudrais commencer, comme je le fais souvent, pour ceux qui étaient là hier, quel mot vous avez gardé ? Est-ce que vous pouvez résumer pour les autres par des mots-clés ? Car mon propos, encore une fois, ce n'est pas vous envahir de paroles, mais c'est qu'à la sortie, il y ait plus de joie, parce que vous avez découvert quelque chose d'essentiel, et que vous allez vous redire pour déprogrammer des fausses conceptions et pour rentrer dans l'amour de Dieu. Alors, quel mot vous avez gardé d'hier ?
Enfant de lumière.
Oui, alors enfant de lumière. Voilà, c'est Saint Jean qui parle de l'enfant de lumière.
Ouais.
Enfant de lumière. Et souvenez-vous de cette histoire que je re-raconterai demain, mais j'en raconterai beaucoup d'autres, sur les vitraux. Je suis un petit vitrail. Parmi d'autres.
Même s'il est sale.
Comment ?
Même s'il est sale.
Même s'il est... Enfin, il est de toute façon sale.
Oui, oui.
Il est de toute façon sale, et quand on le regarde de près, c'est pas si extraordinaire, mais c'est la lumière de Dieu qui lui donne toute sa beauté. Alors ça, c'est vraiment important, parce qu'on est au-delà. Il y a le vitrail, et il y a au-delà. Alors, si je comprends cela, je vais voir les autres différemment. Parce que je me souviendrai toujours, et c'est pour ça que je pourrais dire « tu es belle, tu es beau ». Voilà, c'est bien, et voilà. Merci. Est-ce que je sais dire merci tout simplement quand je reçois une valorisation, un compliment ? C'est très important ce que tu viens de faire. Quand je suis arrivé en Ardèche, il y a 25 ans, je ne savais pas très bien recevoir moi-même les compliments. Et puis il y avait un ami d'un de mes enfants, je lui fais un compliment, et il m'a dit « merci ». Je me suis dit « ça, là Dieu parle ». Il n'a pas dit, mais oui, tu as raison, je suis formidable. Il n'a pas dit, mais non, tu ne me connais pas. Il a simplement dit merci, accueillir. Accueillir les compliments. Alors, si j'ai vu cette lumière en moi, qui ne m'appartient pas, qui me traverse, alors je la verrai aussi chez les autres. Et du coup, les autres vont être beaucoup plus pour moi des amis que des ennemis. Parce que vous voyez, au niveau psychologique de la personnalité de l'enfant, des hommes, de chacun, on a à se protéger. D'ailleurs, Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe ». C'est intéressant cette phrase. D'abord, il ne nous envahit pas, mais il ose, il vient, et c'est nous qui ouvrons ou pas. Mais ça veut dire aussi que parfois il faut savoir fermer sa porte à certaines personnes, à certaines paroles, et Jésus savait formidablement rétorquer lorsqu'il était attaqué. Parce que c'était l'agneau de Dieu, mais c'était le lion de la tribu de Judas. Et demain, si j'ai l'occasion, je redirai que quand on écoute les quatre évangélistes, on voit qu'il y en a un qui est représenté par le taureau, c'est-à-dire être bien les pieds sur terre. Et Jésus a été charpentier et il a structuré son taureau. Et il a pris un père nourricier qui l'a formé à être bien sur terre, parce que c'était le grand aigle, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Et s'il n'avait pas eu ça au départ, il aurait, comme nous le faisons nous, survolé, il serait parti en l'air. Il a eu une prise de terre très forte. Et c'est pour ça aussi qu'il a pris des pêcheurs, qui étaient également très incarnés. Où j'en suis dans mon taureau, où j'en suis dans mon corps, dans mon incarnation. Mais il était lion. Et regardez, c'est extraordinaire de voir, alors qu'il avait un cœur plein de compassion, le mot hébreu qui exprime ce qu'il vivait devant la souffrance, c'est ce que vit une maman quand elle sent son enfant qui tressaille dans son sein. Mais en même temps, regardez comme il était capable de parler aux pharisiens, aux sadducéens et à tous ceux qui l'attaquaient. Il ne se laissait pas avoir. Il rétorquait. Je dis ça parce que dans le milieu chrétien, souvent, on a du mal à rétorquer. On a du mal à s'affirmer. De dire, voilà, toi tu penses ça, mais moi je pense autre chose. C'est vraiment intéressant de bien regarder toutes les facettes. Voici l'homme, toutes les facettes de Jésus. Le taureau, le lion. Et puis c'était le grand aigle. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, je suis un petit aiglon et toi tu es le grand aigle. Ça veut dire que pour nous, nous sommes faits aussi de plusieurs niveaux et que souvent nous n'en vivons qu'un seul. Alors souvent nous sommes dans nos ailes, alors nous sommes très aériens, c'est très bien, mais nous avons plus de mal à nous positionner par rapport aux autres ou à bien rester sur terre. Et il y en a d'autres qui sont comme des taureaux à qui il manque des ailes. D'ailleurs, c'est très intéressant dans les rapports humains, et c'est pourquoi Noé, dans son arche, a pris un couple de chaque animal. C'est que, vous pensez au totem des Indiens ou au totem des scouts, c'est qu'il y a autant de différences entre nous qu'il y a entre les animaux. Alors, on ne peut pas réduire en disant, toi tu es un renard, toi tu es ceci, cela, mais comprenez que c'est vrai dans la vie sentimentale, c'est vrai dans la vie relationnelle, c'est évidemment qu'on se comprend mieux quand on fait partie du même type. Par exemple, les oiseaux se comprennent mieux entre eux. Ceux qui habitent dans la forêt se comprennent mieux, ceux qui habitent dans l'eau, etc. Voilà, alors, je continue. Quel mot-clé vous avez gardé ?
Gratitude.
Gratitude. Ça, c'est vraiment fondamental. Où j'en suis par rapport à la gratitude, à la reconnaissance. D'ailleurs, reconnaissance, c'est un mot extraordinaire, parce que j'ai à être reconnaissant et à bien utiliser tous les dons de Dieu, mais en même temps, j'ai à reconnaître qui je suis vraiment. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, tout à l'heure, avec l'enfant de lumière. Est-ce que, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, est-ce que j'ai de la gratitude tous les jours, et j'irai mieux si c'est le cas, de la gratitude par rapport à tous ceux qui ont travaillé pour tout ce que j'utilise au quotidien. Vous vous souvenez de ça?
Oui.
Pour moi, c'est fondamental. Je vois beaucoup de personnes qui se sentent seules, mais vous vous rendez compte, et on peut être seul en couple, et on est toujours seul, monos. Mais regardez, c'est différent d'être seul coupé ou d'être seul habité et en communion avec les autres. Parce que sans cesse, j'ai conscience de tout ce mouvement d'entraide qu'il y a entre les uns et les autres. Gratitude. Ensuite.
Déchirure.
Pardon.
Déchirure.
Oui.
Les micros qui sont déchirés, alors la lumière passe à travers cette ouverture.
Ça, je donnerai des exemples demain. Mais pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, regardez, le corps de Jésus sur la croix a été déchiré. Et quand il se présente avec ses déchirures, mais transfiguré. Et je redis, c'est vraiment important, c'est que toutes les déchirures de ma vie peuvent être une opportunité d'ouverture aux autres. Ou alors, je vais fermer, je vais bloquer, je vais mettre sur le cadenas, un cadenas, c'est pas possible, j'en voudrais, je chercherai des coupables. Et ce que le Seigneur vient faire avec beaucoup, beaucoup de tendresse, c'est est-ce que tu veux bien me donner cette déchirure? Est-ce que je peux passer à travers ta déchirure? Voilà. C'est quelque chose que personnellement j'ai entendu de la part de Marie, parce que j'étais à Saint-Gervais, à Paris, près d'une statue de Marie, et j'ai vraiment entendu « Est-ce que tu veux bien être psychologue dans mon église ?» C'était il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de psychologues chrétiens. Et évidemment, j'aurais pu dire « Oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il me manque ceci, il me manque cela. » Voilà. Mais je sentais bien que c'est « Est-ce que tu veux bien ?» que la lumière passe à travers tes déchirures. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Et c'est pourquoi c'est si important de bien voir les fenêtres. Très bien. Si vous voyez, à partir du moment où je dis déchirure, si j'ai appris à voir les choses en blanc, noir, en négatif, forcément, je vais dire, on ne peut pas l'accepter. J'aurais tellement aimé que ça n'ait pas eu lieu. Mais ça a eu lieu. Je ne peux pas y revenir. Ruminer, j'aurais dû, si j'avais, c'est une des phrases que le Seigneur ne connaît pas. Et chaque fois, il dit, est-ce que tu veux bien que je traverse cela et que ce soit fécond pour d'autres? Parce que je redis que ça va donner l'humilité, les humiliations donnent l'humilité, le père Verlaine le disait, c'est vrai, la compassion, la compréhension, et c'est là où on va être proche, parce qu'on est tous déchirés. Et heureusement qu'on est déchirés, vous voyez, quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et il en faut des déchirures pour se comprendre. Ensuite, les mots-clés que vous avez gardés.
Le ciel est en nous.
Oui. Voilà. Ça aussi. Le ciel est au fond de moi. L'éternité est déjà commencée. Il y a déjà une partie de moi qui créée par Dieu, qui a commencé l'éternité. Alors bien sûr, ce n'est qu'une toute petite option. C'est qu'une petite partie, mais plus je vais aller vers cette partie-là, mon enfant de lumière, plus je vais être heureux et trouver ma vocation, ce dont on va parler dans un instant. Ensuite,
bûche, embûche, trébuche.
Alors je le redirai demain, ça c'est fondamental. Non seulement, de tout mal Dieu fait un bien, puisqu'il n'est que bien, et il retourne tout. C'est le grand transformateur. Je vais venir à ce que tu dis. Dans la photographie classique, alors vous pensez à votre vie, au vilain petit canard. Vous pensez à vos enfants. Dans la photographie classique, plus la lumière rentrait au départ, plus le négatif était noir. Plus la lumière rentrait au départ, plus le négatif était noir. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grands saints qui étaient très très colériques, par exemple, et ils ont appris à transformer cette énergie. Si on en reste là, si l'éducation n'est que négative, et parfois elle l'a été, on va casser le négatif. On va le déchirer. T'es plus mon fils, je ne te connais plus, personne ne voudra de toi, avec ton caractère, toutes ces phrases qu'on peut entendre. Ou plus tard tu, le plus terrible c'est plus tard tu. C'est comme dans La Belle au bois dormant, la fée qui n'avait pas été invitée dit à 18 ans, tu te piqueras et tu mourras. Et il y a des parents qui non seulement, malheureusement, donnent des phrases poison, des voix du père qui font mal, mais en plus, qui programment. Par exemple, voyant la vie sentimentale de beaucoup de personnes qui aimeraient rencontrer, je voyais que certaines, par exemple, avaient reçu du type « Mais qui voudra de toi ?» Avec ton caractère. Mais tu peux quand même pas espérer. T'as vu comment tu es ? Etc. Alors, je disais ça pourquoi ? Oui, voilà, d'accord. Donc, non seulement j'ai à laisser le Seigneur traverser, m'habiter et utiliser même toutes les opportunités que deviennent des blessures acceptées et offertes, mais en plus, il nous apprend la vraie offrande. Et là, je redis que offrir, ça veut dire que c'est toute la journée, donc tout ce qui se passe, qui peut créer des ingrédients qui vont aller dans la cheminée divine et qui vont réchauffer, éclairer non seulement le monde, d'autres personnes, mais aussi les âmes du purgatoire. Et donc ma formule, c'est, je vais mettre dans la cheminée divine mes bûches, ça c'est ce que je crois être constructeur et que j'ai bien fait, mes embûches, toutes les difficultés de ma vie, j'essaye de les résoudre, mais je les offre, là où je trébuche d'habitude, et quand je suis mal embûché. Voilà. Si vous vous souvenez de ça, quand je suis mal embûché, oui c'est un jeu de mots, n'est-ce pas? Quand je suis mal embûché, voilà. Alors c'est important parce que par exemple, il y a une religieuse qui prie chaque fois que je fais une conférence, et elle est un peu gourmande, et en général, elle offre ce jour-là de ne pas manger de sucrerie. Et la conférence est à 20h30, jusqu'à 19h elle tient, à 19h elle craque, et elle mange la tablette. Et alors, elle arrive complètement décontenancée. Alors qu'est-ce que je lui ai dit à votre avis? Oui, j'ai dit, est-ce que tu as offert d'avoir mangé la tablette? Ben oui, parce que si tu ne l'avais pas mangée, tu offres, c'est un sacrifice. Mais maintenant, tu n'es pas contente de toi. Eh bien, faisant quelque chose de positif, tu offres le fait que tu ne sois pas contente de toi, c'est pas pour autant que tu feras la même chose la prochaine fois, et c'est une offrande qui va m'aider. Voilà, ça c'est important parce qu'on ne voit pas les choses comme ça d'habitude. Il ne s'agit pas de justifier encore une fois, mais de penser que tout ce qu'on met dans la main et le cœur de Dieu va être transformé. D'autres mots-clés que vous avez retenus? Pardon? PPDA. Alors, PPDA, souvenez-vous de ça, présence permanente de Dieu amour. Je le redis. Est-ce qu'il y a... Il ne devrait pas y avoir une seule journée où j'oublie que Dieu m'habite et m'aime, est en moi. Présence permanente de Dieu amour. Souvenez-vous, présence permanente. Or, ce que j'ai dit hier, c'est que je l'ai déjà senti à des moments précis de ma vie. Mais souvent, je ne l'ai pas reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reconnu. Eh bien, dans le livre, celui-là, vous pouvez trouver à la librairie, « Sans chemin pour découvrir Dieu », je dis qu'il a bien été très présent dans tous les moments où j'ai essayé d'aimer. Et la foi pourrait être plus profonde si elle s'ancre sur ma vie. Non seulement parce que je l'ai vu dans tous les passages de ma vie, et il était là pour m'aider, mais également dans tous les éléments, les élans d'amour que j'ai eus, même si je les ai mal utilisés. Et c'est là où on confond deux niveaux, parce que d'ici, de mon être profond, a jailli l'amour divin, et au passage, je l'ai mal utilisé. Vous voyez, Dieu nous donne un miroir, par exemple, avec un miroir, je peux dire, regarde comme tu es belle. Mais il y a plusieurs façons de le dire aussi, hein, ça peut être intérieurement. Avec un miroir, je peux utiliser un rayon du soleil pour éclairer, ou je peux faire flamber. Voilà, Dieu nous donne, et nous utilisons. Alors c'est très important de bien faire la différence entre ce qui vient de l'enfant de Dieu en moi, et de ce qui vient de mes programmations. Alors, je vais terminer d'abord dans les mots clés. Est-ce qu'il y avait d'autres mots clés dont vous vous souvenez? Oui? Il y avait d'autres mots clés?
C'est pas un mot clé. Mais
oui, vas-y.
J'avais noté.
Oui, vas-y.
Se libérer des poids du passé.
Voilà. Alors, d'abord, ce qui est vraiment très important, c'est que, pour moi, il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est de passer son temps à aller farfouiller dans le passé, comme dans un grenier, avec nostalgie, avec agressivité, et je n'en sors pas. La psychologie seule risque cela. L'autre, c'est le refus de dire, mais enfin, bon, je suis grand, j'ai une éducation, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et c'est vrai. Et du coup, je ne vois pas mes programmations. Or, la question, c'est de devenir moi-même. Et non pas ce qu'on a voulu pour moi, non pas ce qu'on m'a dit. Et c'est là où je vais... Vous connaissez l'histoire du vilain petit canard? Vous la connaissez vraiment? Alors écoutez, je vais vous la raconter, puisque l'un de vous me l'a demandé. Et je crois que c'est une histoire qui va beaucoup plus éclairer que des mots. Voilà le conte d'Andersen. Il était une fois, très juste, merci. Once upon a time, il était une fois une maman canard qui a des œufs normaux dans sa couvée, puis un œuf qui est anormal. Il n'est pas comme les autres. Vous pensez déjà, quand la grossesse se passe pas bien, pensez aussi quand l'enfant a un handicap, etc. Il y a un œuf qui lui paraît anormal. Alors il y a une voisine, parce qu'il y a toujours des voisins pour mettre leur grain de sel, qui dit, mais ça on m'a déjà fait le coup, c'est un œuf de dindon. Ben c'est pas compliqué, quand le petit va sortir ou la petite, tu la jettes dans l'eau, s'il remonte pas, c'est que c'est un dindon. C'est ce que fait la maman, parce qu'en plus elle a beaucoup de mal, l'œuf prend beaucoup plus de temps, puis sort un drôle de petit truc, pas joli du tout, avec des ailes qui traînent, un bec pas comme elle le pensait. Elle le jette dans l'eau, il remonte, malheureusement. Bon, c'est un vilain petit canard. Et il va être vu comme un vilain petit canard. Et ses frères et sœurs ne sont pas très fiers de lui à l'école, parce qu'on se moque de lui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de se souvenir de toutes les moqueries qu'on a eues à l'école. Je vous assure, c'est un travail que je fais souvent avec les personnes qui viennent me voir, sur la taille, sur le nom, sur le poids, sur le nez, les oreilles... Je donnais juste un seul exemple. C'est un monsieur qui vient me voir. Il venait de très loin, ça me touchait, et je voyais qu'il avait une faculté d'écoute assez extraordinaire. Et je lui dis à un moment donné, tu vois, d'ailleurs, tu as des grandes oreilles pour entendre. Ce que les psychologues appellent des récepteurs ouverts. À ce moment-là, il s'est reculé, et il a dit, oui, à l'école, on m'appelait Dumbo. Ça va, tu tiens bien le vent? D'ailleurs, parenthèse, je vais continuer sur cet homme. Je vais prendre un homme parce qu'évidemment, je pourrais prendre une femme aussi, mais c'est pour montrer que c'est vrai de beaucoup d'entre nous. Il était né avec une sœur jumelle, dans une famille qui accordait beaucoup d'importance au premier. Donc, il n'était déjà pas le premier au départ parce qu'il est sorti en second. Ça paraît aberrant, mais dans sa famille, c'était très important. Ses parents, et là, pensez à votre passé... Et c'était vrai à une époque, ne savait pas valoriser. Donc ils lui ont très peu dit de mots où il se reconnaissait, où il reconnaissait ce qu'il était. Mais par contre, sa mère lui disait souvent qu'il mangeait comme un cochon. Ça a l'air de rien, mais répétait souvent. Et vous savez ce que ça a donné? Eh bien, c'est que quand je l'ai vu, il ne travaillait plus, il était tanguy. Comme disait René Luc, je crois, ou le père Verlaine, 40 ans, il vivait dans le sous-sol chez ses parents, il faisait de l'informatique toute la journée, du virtuel. Pourquoi? Parce qu'il avait été magasinier, mais il avait très peur d'en lâcher un. Alors, ce qu'il appelait ses flatulences. Vous voyez ce que c'est? Voilà. Il avait tellement peur de sentir... le cochon, qu'il a été bloqué et qu'il a dû arrêter le travail. Voilà comment des paroles reçues par un petit enfant de façon répétée, de façon absurde, peuvent toucher. Je vous parlais d'une autre dame, un jour, elle me parle et je lui dis, ce qui est rare dans mes formulations, mais ce que tu dis est vraiment très intéressant, tu es très intéressante. Je lui dis ça, et à ce moment-là, elle recule, elle commence à rire d'une façon... tout en pleurant, elle a une mimique bizarre et elle me dit, mon père me disait toujours, tu n'es pas intéressante. Voilà, sans le vouloir, j'avais donné une phrase contre poison. Et voilà ce que nous pouvons faire tous de la part de Dieu, c'est donner des phrases contre poison. Je pourrais vous en citer beaucoup. Donc, voilà, le vilain petit canard est installé. Il va à l'école, ça se renforce. Et un beau jour à l'adolescence, il casse tout, il part... comme le font certains adolescents, mais maintenant, l'étiquette de vilain petit canard, elle est bien intégrée en lui. Parce qu'il fuit, mais il sait que c'est un vilain petit canard. Alors dans le conte d'Andersen, à un moment donné, il arrive près d'un lac, et il y a deux jars. Il y a un chasseur qui arrive avec son chien, il tue les deux jars, le chien passe à côté de lui sans le voir, va chercher les jars et le ramène au chasseur. S'il était bien structuré, il dirait « chic, j'ai de la chance, merci Seigneur », et il dit « je suis tellement laid qu'ils ne m'ont même pas vu, je n'existe pas, je ne suis rien, j'ai pas de place dans la vie ». Alors il en a vraiment trop marre, et comme il en a marre, il va vers une mare, et là il voit deux animaux magnifiques qui s'envolent. L'hiver vient, la mare gèle. La margelle, c'est pas mal, non? Déjà, il a la margelle. La margelle. Et pendant ce temps-là, il rumine. Et il se dit, là, j'ai deux possibilités. Ou je me suicide, parce que là, c'est vraiment trop difficile. Ou je retrouve ces animaux magnifiques que j'ai vus. Ils étaient tout blancs. Autant moi, je suis gris, méchant, mauvais. Autant ils sont beaux et blancs. Et quand le printemps revient, comme dirait Hugo Frey, il revient près de la mare et il attend. Et il voit deux animaux magnifiques, tout blancs, qui se posent sur l'eau. Alors il avait déjà préparé, pensez au fils prodigue, il avait déjà préparé, je sais que je ne le mérite pas, je sais que je ne vaux rien, je sais que je suis l'aimé, mais prenez-moi avec moi, je vous astiquerai les nageoires, je vous prendrai des petits vers dans la mare, je serai votre serviteur, mais s'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Alors il a préparé son speech, et il met son aile comme ça en bouclier, parce qu'il a tellement l'habitude d'être rejeté, et il court vers les deux animaux. À ce moment-là, révélation, les petits enfants sortent du village voisin, ceux qui voient autrement. Ils se précipitent vers les deux animaux et disent « Oh, ils sont revenus, les cygnes de l'année dernière, comme ils sont beaux !» Puis à un moment donné, il y a un petit enfant qui pointe son petit doigt vers le vilain petit canard qui arrive à bride abattue, si on peut dire pour un vilain canard. Et il dit, oh là là, là, il y en a un troisième. Il est encore plus beau que les autres. Alors lui, il dit qu'il n'en a vu que deux. Et il s'est dit, où est le troisième? Donc il se retourne, il regarde partout, il n'en voit pas. L'eau a dégelé. Et à un moment donné, il voit le troisième qui est là, exactement où il s'est arrêté. En fait, il ne sait pas que c'est son image dans l'eau parce que son poil a blanchi, il ne s'en rend pas compte, il n'a pas compris, donc il va voir qui se cache dans l'eau. À ce moment-là, les cygnes arrivent, et il recule, il a peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ils courbent majestueusement leur cou, en disant, comme tu es beau, tu seras notre ami, viens avec nous. Alors lui, il ne réalise absolument pas ce qui se passe, il est reconnu. Et c'est vrai parfois dans des groupes de prière, par exemple. Il est reconnu, mais lui, il a toujours l'image de vilain petit canard et il n'a pas compris qu'il était cygne depuis le début, mais que personne ne lui avait appris. Et qu'ainsi, toutes les différences, ses ailes qui traînaient par terre, son bec qui était plus grand que les autres, tout ce qu'il identifiait comme cygne et qui n'avait pas été reconnu, il l'avait vu comme des défauts. Et il va lui falloir 3, 4, 5 ans pour vraiment rentrer dans son identité de cygne. C'est seulement à ce moment-là qu'il pourra vraiment retrouver sa famille d'origine, en sachant qu'eux, son canard, lui, il est cygne, c'est ni mieux ni moins bien, mais différent. Eh bien voilà, en chacun de nous, il y a un cygne, on aurait pu prendre un autre animal, mais il y a aussi un vilain petit canard qui s'est constitué pendant toute notre vie en réaction à ce qu'on nous a dit et aux blessures. Alors c'est parce que je vais découvrir l'émerveillement du cadeau de Dieu, mon cygne, que je vais pouvoir petit à petit blanchir les ailes de mon vilain canard. Voilà. En psychologie, moins par moins ne donne pas plus. C'est pas parce que tout le temps je vais me dire je suis un vilain petit canard que je vais devenir un cygne. C'est important que je vois mes programmations, j'ai à me déprogrammer, mais en même temps qu'il y ait une dynamique de vie qui vienne de l'intérieur, et c'est ça qui va permettre, justement hier je parlais du suicide, d'éviter que beaucoup de gens se suicident ou partent en dépression, etc., la découverte du cadeau extraordinaire que Dieu fait dans ma nature profonde. Ça va cela? Alors ce qui est important, c'est que c'est l'histoire quand même quasiment de tout le monde. C'est personne ne se connaît vraiment tel que Dieu nous voit. Alors comment maintenant reconnaître l'enfant de Dieu en moi. D'abord, ça vous arrive parfois à vous dire, je suis enfant de Dieu ou pas?
Oui.
Oui. Vraiment? Parce que vous vous rendez compte que toute la journée, je pourrais avoir la conscience que je suis enfant de Dieu, et en même temps que j'ai à travailler sur mes ailes de vilain petit canard. Et le soir, quand je fais mon examen de conscience, de regarder ce qui est venu dans la journée de mon signe intérieur et ce qui est venu de mon vilain petit canard. Vous voyez? Alors, comment est-ce que je peux reconnaître ma vocation profonde? Parce que le point de départ de tout ça, c'est qu'entre nous, il y a comme une grande mosaïque où chacun est important. Nous sommes comme un puzzle dont chacun de nous est une pièce. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des puzzles de 5000 pièces. Si jamais, au bout de je ne sais combien de temps, et vous en perdez une, vous vous rendez compte qu'elle soit en haut à gauche, en haut à droite ou en bas, il y a un trou. Et votre perfectionnisme va en prendre un coup là. Eh bien, le rôle de Dieu, c'est de nous amener à découvrir ce qui va nous rendre le plus heureux, c'est-à-dire de remplir notre vocation, d'être à sa place. Et je redis ce que j'ai dit hier, si quelqu'un a intégré qu'il n'est rien, qu'il est mauvais, qu'il n'a pas de place dans la vie, ce que j'entends souvent, eh bien du coup, il va être en conflit avec tout le monde. Il va être jaloux de tous ceux qui ont plus que lui, il va trouver que ce n'est pas juste, il va se sentir victime. L'œuvre de Dieu, c'est d'aider chacun à découvrir ce qu'il est en profondeur et le devenir. C'est pour ça que sur ce livre-là, on voit un vilain petit canard qui se regarde dans une glace et qui voit un signe, ce que Dieu lui montre, pour se reconstruire, pour renaître. Alors, ce n'est pas si évident que ça. Quand vous disiez qu'au cours du week-end, un week-end à Bruxelles, vous aviez été guéri de la voix de votre père, vous rendez compte encore une fois combien un père et une mère, et c'est extraordinaire d'être père et mère, peuvent en même temps entraver Dieu, même s'ils parlent au nom de Dieu. Voilà. Et on a donc tous, être adultes, c'est faire le tri. Est-ce que vraiment c'est la voix de papa, en parlant de Dieu? Vous voyez? Quand j'entends « tu es un » ou « c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », il y a une bonne autorité, mais il y a aussi des autorités destructrices. Qui me parle? Alors, comment je vais découvrir mon enfant de lumière? Alors, à votre avis, comment vous faites-vous pour découvrir votre être profond et que vous êtes vraiment? Allez-y.
Oui.
Et alors, comment tu fais pour arriver à ton être profond?
Je lis une parole de l'Évangile, ma Père Chacun.
Quand je vais à la messe et que je dis seulement une parole et je serai guéri. Vous êtes déjà demandé ce qu'il vous dit? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Dis seulement une parole et je serai guéri. Donc il suffit d'une parole de Dieu, positive, constructive, contre poison. Le jour où j'avais dit à cette dame qu'elle était intéressante, sans le vouloir, Dieu m'avait inspiré une phrase contre poison. Alors quelle est la phrase libérante pour vous, que vous entendez?
Je t'aime.
Je t'aime. Alors voyez, ça c'est pas compliqué à dire. Je t'aime. Mais ce qui est formidable, et surtout entre autres dans le milieu chrétien, quand je vais à tel ou tel endroit, c'est de voir combien c'est difficile à dire, ça, je t'aime. Et entre autres dans les couples. Alors, j'en parlais ce midi, et j'en parlerai sûrement demain. Je vois beaucoup de couples, il y en a un, homme ou femme, qui aimerait beaucoup que l'autre lui dise, ma chérie, ou mon amour, je t'aime, merci pour tout, grâce à toi, si tu n'étais pas là, je t'aime, tu es mon petit pinson, oh, comme tu es beau, etc. Voilà. Pardon? Pas devant tout le monde.
Oui, voilà. Mais c'est vrai.
Alors, et de l'autre côté, quelqu'un qui est incapable de le dire. Et incapable parce qu'il ne l'a pas entendu, parce qu'on ne lui a pas dit, ou parce qu'on a abusé de lui en le disant. Si vous saviez le nombre de personnes, femmes surtout, qui ont eu des attouchements, depuis des années, j'ai vu des centaines et centaines, j'exagère pas, surtout de femmes, mais même d'hommes, qui ont eu des attouchements. ou plus. Et ça pouvait être par un voisin, un oncle, un grand-père, le père, un frère. Je vois des familles où les parents ne savent pas ce qui s'est passé. Mais tout ça, ça va être un obstacle. Si je ne vais pas en parler à quelqu'un, ça va rester enquisté. Je connaissais une femme proche de moi qui, un beau jour, elle avait simplement 7-8 ans. Et quelqu'un qui avait un problème mental l'a mis dans un fossé et a commencé à la toucher. Elle ne l'a pas supporté, mais il n'a pas pu aller plus loin. Elle a fui. Elle est arrivée chez sa maman. Et elle a commencé à dire les choses, mais quand elle a vu le visage effrayé de sa maman, elle n'a rien dit. Souvent, la personne qui fait ça dit surtout « tu dis rien », mais là, ce n'était même pas le cas. Elle n'a rien dit et elle est devenue anorexique. Alors, donc, malheureusement, nous avons eu des expériences de l'amour, et j'en parlerai demain, qui n'étaient loin d'être justes. Mais je reprends le couple de tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne sait pas le dire parce qu'il ne l'a pas entendu. Ou bien parce qu'il est assez perfectionniste. Parce que si je dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime », toi tu peux me dire « oui, mais enfin, tu n'aimes pas tout en moi ». Ce qui est vrai. Et il y a des personnes qui ne seraient capables de dire « je t'aime » que si j'aime, que tout moi aime tout toi. Ben ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu. D'accord ? Et je me souviens d'un couple où qui m'a raconté la chose suivante. Le monsieur, depuis 5 ans, construisait sa maison et sa façon de montrer son amour, c'était par le fer, par le bricolage, par la construction. Mais il était très stoïque, incapable de parler de ses sentiments et sa femme trouvait le temps bien long. 4-5 ans où on ne le voit pas le week-end, on ne le voit pas pendant la semaine et alors un beau jour, elle n'en peut plus, elle va le voir le samedi après-midi et elle lui dit la phrase de la personne affective « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors lui, il ne voit pas quoi répondre à cette question qui n'a pas beaucoup de sens. Donc il ne répond pas. Du coup, elle est angoissée parce que s'il m'aimait, il répondrait tout de suite « Mais oui, je t'aime. » Il ne l'a pas fait, donc il ne m'aime pas. Alors elle commence à l'envahir de paroles. Tu sais, le voisin, je l'ai vu l'autre jour. Il prenait la main de sa femme quand il marchait. « Moi aussi, j'aimerais bien que tu me prennes la main. » Et puis, son mari lui apporte parfois des cadeaux, moi aussi, des fleurs. Moi aussi, j'aimerais bien recevoir des fleurs. Alors, elle lui dit tout ce qu'il ne fait pas, donc souvent de reproches, ce qui le bloque encore plus. Et au bout d'un moment, elle redemande, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il fait, Alors, comme il ne parlait pas beaucoup, elle se dit, tiens, c'est le bonjour, il est en veine de parole. Elle continue à lui reprocher, parce que souvent c'est comme ça. Je souffre, parce que tu ne me le dis pas, donc je te le reproche. Mais le faisant, je bloque encore plus l'autre. Et au bout de 3 quarts d'heure, elle redit, est-ce que tu m'aimes ? Et entre ses dents, il a dit, je te l'ai déjà dit. Mais quand ? Tu sais, une femme, ça a besoin tous les jours. Mais ça peut être aussi un homme. Et il a répondu, il y a 17 ans. Voilà. C'est fait une fois pour toutes, on n'en parle plus. Eh bien, vous voyez que simplement la capacité de voir ce qu'on aime dans l'autre et le lui dire, tout simplement, ce qui ne veut pas dire que tout moi soit d'accord, ce qui ne veut pas dire que tout toi soit parfait, c'est quelque chose qui se réapprend et qui est ma responsabilité. Pourquoi est-ce que je continue à être conditionné par l'éducation que j'ai reçue ? Je ne parle même pas de l'autorité. Vous savez, aujourd'hui, il y a vraiment un manque d'autorité qu'on voit un peu partout. Je vois beaucoup de professeurs, je les plains beaucoup au niveau des classes, mais c'est vrai dans les familles. Et alors, il y a des hommes qui n'arrivent plus à mettre en place leur autorité, mais il y a aussi des femmes qui ne le veulent pas parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Et il y a souvent une lutte dans l'éducation dont l'enfant sent, et il sait très bien où aller et comment s'insinuer. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à faire le tri ? Est-ce que je peux identifier comment mon père, ma mère, mes grands-parents, mon hérédité a été, ce qu'ils m'ont appris pour faire le tri ? Ça je prends, ça je ne prends pas. Et le Seigneur nous y aide. Notre Rabouni nous y aide. Ça va ? Oui ? Ça vous dit quelque chose tout ça ou... Alors, c'est un travail que je peux faire petit à petit. Mais comment je saurai que l'enfant de mes parents parle beaucoup plus que l'enfant de Dieu en moi? L'enfant de Dieu, il est libre. Liberté des enfants de Dieu. J'ai dit, il sait être gratuit. Il sait voir ce qui est beau. Il sait s'émerveiller. Il sait dire merci. Il sait dire je t'aime. Il sait aller vers les autres tout en sachant se protéger. Mais l'enfant des hommes, il est enfermé dans une construction qui a été faite tout le long de sa vie. Alors, comment ça sort? Tu n'es pas responsable de mon passé, mais je ne suis pas responsable du tien. Souvent, dans un domaine, que ce soit l'autorité, la vie sentimentale ou autre, je vais avoir une réaction très forte, disproportionnée. Là, je peux être sûr qu'en filigrane, je vois quelqu'un de mon passé. J'ai pas à rendre l'autre responsable, mais j'ai à travailler là-dessus pour assainir. Pourquoi est-ce que j'ai réagi si fortement? Les réactions disproportionnées. Ça vous dit quelque chose, ça? Voilà. Bon, alors maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps, comment découvrir en moi l'enfant de lumière? Alors d'abord, ce que je crois, c'est qu'il y a un axe en chacun de nous qui est là depuis le départ de notre vie. Dans ce livre que je viens de vous montrer, j'explique que moi j'étais d'une famille d'ingénieurs, mon père a fait centrale, mon frère polytechnique, et quand je suis arrivé vers la... Je vous ai raconté ça, non? Non. Quand je suis arrivé, je travaillais très bien, sauf qu'à la fin je commençais à travailler de moins en moins bien, à faire l'école buissonnière, parce que je voyais arriver le terrible moment où j'allais devoir ou être ingénieur ou commercial, faire HEC, quoi, c'était un des deux possibilités, et j'étais très mal. Alors là, je remercie vraiment Dieu parce qu'un prêtre m'a envoyé voir un psychologue. Et le psychologue m'a fait passer des tests, et il a fait venir mon père, et il a dit « psychologue ». Mon père disait que c'était des charlatans, mais c'était un honnête homme, il a accepté. Ça m'a sauvé. Parce qu'autant je commençais à avoir beaucoup de difficultés à l'école, autant après je me suis épanoui dans les études de psychologie. Mais quand je regarde, par exemple, ce frère qui a fait Polytechnique, il demandait toujours des jeux qui étaient des jeux de construction. Et moi, je demandais des panoplies de médecins. Voyez, déjà, quand les jeux ne sont pas conditionnés au départ, les petits garçons jouent avec des locomotives ou des voitures, les petites filles, des jeux de poupées, etc., c'est de voir qu'est-ce qui attire l'enfant. Et être à l'écoute de l'enfant va voir apparaître un certain nombre de qualités. Voilà. Alors, c'est important de se souvenir déjà de mes aspirations quand j'étais petit, de ce que j'aimais faire. Je vais donner un exemple. Il y a un petit garçon qui aimait beaucoup les jeux où il y avait des lumières. Plus tard, il est devenu électricien. Et puis, un jour, il a perdu un poumon, il a failli mourir, il a donné sa vie à Dieu et il est devenu pasteur. Ce qui était pour lui une autre façon de mettre de la lumière chez les gens. J'ai connu une autre dame, elle a entendu des voix, elle est devenue médium. Puis on lui a expliqué que c'était pas bien. Ah non, c'est pas ça. Non, elle a d'abord été téléphoniste. Parce qu'elle aimait rentrer en contact avec les gens. Puis après, elle est devenue médium. Puis après, quand ça s'est nettoyé, elle est rentrée dans un groupe de prière où elle avait des paroles de connaissance. Voilà. Quel est l'axe de ma vie? Nous avons tous un axe. Alors, comment je peux le reconnaître? D'abord, c'est ce qui me rend le plus heureux quand je le fais. Ce qui m'est le plus naturel. Les moments les plus épanouis de ma vie, c'est quand il s'est passé quoi? Alors il y a des personnes, par exemple, qui trouvent qu'ils ne savent pas bien parler, mais qui savent très bien écouter. C'est très important. Première façon. La deuxième, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous, c'est de voir ce que j'admire chez les autres. Alors je ne parle pas de ce que j'admire par programmation, comme Goldorak ou autre chose de ce genre, mais quelles sont les personnes que j'admire le plus? Quand je faisais des stages en entreprise, je disais aux gens, vous allez écrire le nom, et ça je vous invite à le faire chez vous, de 3 personnes pour qui vous avez beaucoup d'admiration. Quel que soit le champ, que ce soit politique, chanteur, qu'ils existaient ou pas, qu'ils soient vivants ou pas, 3 noms de personnes. Et à côté de chacun de ces noms, vous allez marquer ce que vous aimez en lui ou en elle. Et puis après, vous allez voir toutes les qualités que vous avez reconnues et qui vous ont attiré chez autrui. Il y en a où vous allez vous reconnaître vraiment. Vous allez dire, oui, c'est vrai, j'aspire à ça. Et d'autres, pas du tout. Eh bien, ces autres, pas du tout, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous pensez à cette personne, elle fait vibrer en vous un potentiel inexploité. Par exemple, si je prends un pianiste, alors je ne joue pas de piano, mais je sais que j'ai un don pour ça potentiel. Ce n'est pas parce que j'ai jamais fait de piano, si j'admire très fort des pianistes, c'est qu'il y a cela en moi. Alors après, je peux me demander qu'est-ce qui l'a bloqué, si c'est le moment de le développer ou pas. Mais c'est vrai, tout ça au niveau du travail. Je me souviens d'un homme, et je parle dans le livre « Je me sens en décalage et je réussis ma vie » de quantité de personnes que j'ai accompagnées qui, entre 38 et 52 ans, ont changé de trajectoire professionnelle. Dans tous les cas, ils n'étaient pas bien. Il leur manquait quelque chose. Mais je vais vous donner un seul exemple qui est vraiment typique. Un homme que je vois après trois jours de stage en entreprise, il vient me voir, il avait un haut poste financier, je vous ai parlé de ça ? Non, je ne crois pas. Il avait un haut poste financier, il réussissait bien, il gagnait bien sa vie, il était apprécié par tout le monde. La seule chose, c'est qu'il était mal dans sa peau et il sentait en décalage. Et pendant 2 ans, je l'ai vu une fois tous les mois et demi, et on a réfléchi sur pourquoi il sentait en décalage. Et il n'arrivait pas au départ à dire pourquoi. Mais comme il a compris PPDA, patience, persévérance, détermination pour avancer, vous souvenez, eh bien il a continué à chercher. Et il venait souvent me voir avec des chemises hiver comme été, blanches, à courtes manches. Et un jour je lui dis, c'est drôle quand je te vois, et ça m'est arrivé souvent ça, j'ai l'impression de voir un chirurgien. Je fais cette réflexion. Et il dit, c'est vrai, j'ai toujours voulu soigner. Alors, j'ai toujours voulu soigner. Alors, regardez bien le point de départ. Ça n'a aucun rapport avec ses études, aucun rapport avec ce qu'il est en train de faire. Mais il dit simplement, j'ai toujours voulu soigner. Il n'a pas dit, c'est trop tard, je n'y arriverai jamais, c'est pas possible. Il s'est dit, comment faire pour découvrir une façon de soigner qui me correspondent. Il a pris des mois pour se renseigner. Et c'était il y a 35 ans, il a trouvé ostéopathe. Il avait 40 ans. Il était marié, un enfant, pas 5. C'était quand même plus facile. Il a profité d'une charrette de licenciement où il n'était pas prévu pour pouvoir quitter la société avec un peu d'argent, le chômage, et il a commencé à 40 ans, 6 ans d'études d'ostéopathie. Et à 46 ans, il était ostéopathe, et très rapidement, il a une forte clientèle, et il était beaucoup plus heureux tout en gagnant autant qu'avant. Voilà. Et vous voyez que ça n'a aucun rapport. La seule chose, c'est qu'il n'a pas utilisé un mot poison du type « Ah ben c'est trop tard, jamais je n'y arriverai, vous n'y pensez pas », toutes ces phrases qui ont le mérite. C'est beaucoup plus rapide le négatif, parce que de dire tout ça, comme ça j'ai rien à faire. Alors que de dire « Oui, c'est vrai ». J'ai ça en moi, est-ce que c'est le moment, comment je fais pour le développer, ça va prendre du temps. D'accord ? Alors, vous ferez cela, vous prenez trois personnes que vous avez admirées, vous regarderez le métier qu'elles font et quelles qualités elles ont. Eh bien, j'affirme que ça fait partie des potentiels que vous avez en profondeur. Alors, il y a une autre façon, c'est tout ce qui me bouleverse le plus. J'espère que vous savez pleurer, parce que là aussi c'est un conditionnement tout à fait aberrant d'une époque où il fallait être, si tu es grand tu pleures pas, un homme ne pleure pas, ben si un homme il pleure. Et c'est formidable parce que Jésus a pleuré, et il s'est mis en colère, en montrant qu'il faut se réconcilier avec ses colères, pas les sortir n'importe comment, mais qu'il y a une énergie de changement, de transformation dans la colère. C'est très important, parce que tous les gens qui refoulent leur colère, ils se font beaucoup de mal. Ou alors ça sort un jour de façon disproportionnée. Alors, donc, heureux ceux qui pleurent. Je me souviens d'un film que j'avais été voir avec une femme anorexique, enfin celle dont je parlais tout à l'heure, et de l'autre côté, il y avait un professeur de yoga. Et c'était la vie de François d'Assise. François ou les chemins du soleil, de Zeffirelli. Si vous pouvez voir ce film, je trouve que c'est un film formidable au niveau de la Renaissance. Parce qu'on voit le petit François qui est programmé pour devenir un commerçant, et il avait ce qu'il fallait pour ça. Il avait une maman très pieuse en plus. Le petit François qui était un bout en train, qui était capable d'entraîner les jeunes de son pays. François qui était prévu aussi pour partir en croisade, et il part, et il tombe malade au bout de 10 jours, et il revient, on le cache, parce que c'est la honte. Et c'est là où on voit l'ouverture en lui de sa dimension intérieure. Si vous pouvez voir ce film, voyez-le, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on voit l'éveil en lui, François ou les chemins du soleil, de Zeffirelli. On le voit d'abord c'est avec un voile, et on voit comme en transparence le voile du Christ, et puis petit à petit, il y a un petit oiseau qui vient sur sa fenêtre, et il va regarder ce petit oiseau. Et il va le suivre parce que l'oiseau en lui se développe. Et il va aller sur le toit. Les gens disent qu'il est fou, évidemment qu'il va tomber. Et petit à petit, ses yeux de lumière s'ouvrent. Et il va voir toute la beauté de la création. Et il y a un chant très très beau. Et puis il va rencontrer Claire, etc. Et petit à petit, il va découvrir sa vocation. Et c'est là où il a sans doute une exagération, puisqu'il jette par la fenêtre les étoffes de son père. Il sait dire non à la programmation de son père, et aussi, ce qui est plus subtil, même à l'amour de sa mère, qui était une femme très pieuse, et il part pour reconstruire l'église. Et il part tout nu. Hein, je suis né nu, je renais nu, et il est mort nu. Eh bien, cette renaissance, par rapport à des programmations, est formidablement rendue dans ce film. Alors, je reviens aux 3 personnes qui étaient là, dont moi. Le professeur de yoga et moi, on a pleuré tout le temps. Et la femme, pas du tout. Pour dire simplement, vous voyez que c'est plutôt lié à une question de fermeture. Alors je me suis demandé pourquoi j'avais pleuré comme ça. Parce que, évidemment, c'est à ça que j'aspirais. Une autre fois, mais c'est pas pour parler de moi tout ça, mais c'est pour dire qu'on vit tous cela. Je vais très peu au cinéma, je vois un film de Woody Allen qui s'appelait Alice. Et on voyait toutes les tribulations d'une personne qui cherche à se construire en voyant des psychologues, des marabouts, des médiums, etc. Ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que c'est ce que j'entends en longueur de journée. Et à un moment donné, Woody Allen a intégré une image qui était complètement inattendue. C'est-à-dire, on voit Mère Teresa d'un seul coup. Alors on était dans les buildings aux États-Unis et tout le désordre, l'errement de Caïn. Et d'un seul coup, on voit Mère Teresa, avec beaucoup de tendresse, qui amène sa main vers le visage défiguré d'une petite fille. Et là, j'ai senti un pleur qui partait de l'intérieur. Voilà. Quelque chose qui a bouleversé. Alors, je ne sais pas, Mère Teresa, je ne suis pas parti à Calcutta, mais ça me rappelait à l'époque un idéal que je portais. Voilà. Donc, c'est important que je retrouve les idéaux de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qui construit ma vie? Est-ce que c'est bien le Seigneur en moi, ou est-ce que c'est mes programmations, mes peurs, mes fausses croyances? Une autre façon de connaître son être intérieur, c'est de voir les défauts que je me reproche le plus. Alors, par exemple, imaginez, je ne donne jamais dans la rue, etc. J'ai pas envie de me faire avoir. Donc ici, comment est-ce que je pourrais qualifier mon comportement? Bon, allez, on va dire, donc, égoïste. Mais si je suis égoïste à l'intérieur de moi, ça me va très bien. Je suis conforme à mon identité. Mais plus ça me gêne, plus je suis gêné aux entournures, et pas seulement parce qu'on me dit que c'est pas bien. C'est qu'il y a un décalage entre mon comportement extérieur et mon aspiration profonde, l'aspiration de mon enfant de lumière, où il y a de la générosité. Alors je peux me demander, alors pourquoi, alors que Dieu a mis tant de générosité en moi, je vais barrer ma générosité? Et c'est là, et c'est le travail que vont faire tous les psychologues sur les peurs. Peur de se faire avoir, peur de l'avenir, peur avec ma petite retraite, etc. Et donc, si je vois les défauts que je me reproche le plus, je vais découvrir des qualités de mon être intérieur, mais il va falloir que je travaille sur toutes les peurs qui se sont mises en place et qui barrent.